cruzamento da Europa.
Razkrucja Europy.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe et de l'Afrique ce dimanche pour une émission enregistrée avec Guillaume Munier et les moyens externes de RFI à Montpellier à l'occasion du sommet Afrique-France. C'est avec des représentants des sociétés civiles africaines et de la diaspora, des jeunes, que s'est tenu ce sommet d'un genre nouveau sans la présence des chefs d'État. Un sommet que l'Élysée voit comme une première étape du renouveau de la France avec le continent africain pour instaurer une relation qui serait plus celle de l'Europe avec l'Afrique. Nous verrons si nos invités partagent cette vision et quelles politiques européennes pourraient permettre de sortir de la France-Afrique. Nous sommes donc en compagnie d'Habiba Issa Moussa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante et juriste droits humains, ambassadrice du Niger pour le Pacte mondial pour l'environnement. À cette table également, Binta Sidibé Gascon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire Kizal et membre de la Coalition pour le Sahel. Et enfin, Jean-Jacques Lumumba, bonjour.
Bonjour.
Lanceur d'alerte, militant anticorruption et ambassadeur UNIS du réseau panafricain de lutte contre la corruption. Pour se rendre à ce sommet, beaucoup d'invités ont été empêchés par les conditions sanitaires. Il y a beaucoup de problèmes de vaccins, de passeports vaccinal. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sur le continent africain, on reste avec un taux de vaccination qui est largement inférieur à beaucoup d'endroits dans le monde, et notamment à l'Europe. On est à peu près à 4% de personnes ayant reçu leur première injection contre 60% sur le continent européen. Il y avait ce grand projet COVAX qui devait permettre aux pays les plus pauvres de la planète de bénéficier de vaccins. C'est un constat d'échec pour l'OMS. C'est un constat d'échec que vous partagez autour de cette table aujourd'hui.
Je pense que pour commencer, je vais dire que c'est réellement un échec de cette mondialisation et de la solidarité internationale qui veut que la crise sanitaire qui nous a frappés tous puisse être vécu de la même manière et que la vaccination qui protège des formes graves de la pandémie puisse aussi être une réalité en Afrique. Au-delà de l'aspect des personnes qui étaient anti-vaccins en Afrique, je pense qu'à un moment donné, certains pays africains ont quand même été favorables à la vaccination. Mais malheureusement, l'Afrique reste quand même ce continent qui est abandonné par le système sanitaire mondial. Et je crois que il faut le classer comme un échec de l'Organisation mondiale de la santé.
Est-ce que c'est, vous pensez, une solution à moyen terme de permettre à des pays africains, il y a plusieurs pays qui pourraient fabriquer le vaccin à leur tour et qui pourraient avoir les installations?
Je crois que beaucoup de pays, quelques pays africains aujourd'hui ont cette capacité de pouvoir fabriquer le vaccin. Il y a lieu de pousser dans ce sens-là pour aider à ce que ces vaccins soient aussi fabriqués en Afrique, que les Africains aient la licence de produire les vaccins chez eux et surtout de faire de la recherche. Je crois que beaucoup de présidents africains l'ont demandé et l'Union africaine l'a demandé. Je crois que c'est une solution qui pourrait aider l'Afrique à avoir un taux de vaccination beaucoup plus important que celui qu'on a aujourd'hui.
En Afrique de l'Ouest, la situation elle est difficile de ce point de vue-là aujourd'hui.
La situation, comme il vient de le dire, quand on voit sur la carte du monde, c'est essentiellement l'Afrique qui est le grand oublié. Pour les chiffres, sur les 2 milliards de doses initialement prévues en 2021, on n'a distribué que 243 millions de doses. Je confirme, c'est vraiment un échec de la solidarité qui avait été lancée. Et il faudrait vraiment accélérer la levée des brevets qui tombent dans le domaine public pour que chaque pays puisse produire le vaccin et que plus de personnes soient vaccinées.
Pour vous, Habiba Issa Moussa, ça fait 2 ans que vous n'êtes pas retournée au Niger.
Exactement.
À cause du confinement, à cause de la pandémie, justement.
Exactement. On sait bien que cette pandémie a aussi affecté tous les vols commerciaux, mais aussi personnels. Et à cet effet, je n'ai pas pu retourner chez moi depuis maintenant 2 ans. Et au-delà, en fait, je pense que c'est pas juste un échec de l'OMS, mais du multilatéralisme de manière générale. Comme on le sait, l'OMS ne peut rien sans la volonté des États. Et le fait est qu'il y a eu une monopolisation, on va dire, des vaccins au profit du monde occidental et des pays qui en ont plus les moyens. Et on espère que l'Afrique ne sera pas la grande oubliée, comme l'a dit ma collègue.
On va inverser le miroir un instant au début de cette émission pour parler un petit peu du regard que les jeunes Européens ont sur le continent africain avec Alice Roujat. Vous-même, Alice, bonjour.
Bonjour, Juliette.
Vous-même, vous avez fait connaissance avec l'immense continent africain il n'y a pas si longtemps lors d'un premier voyage.
Il y a 2 ans, je suis partie voir un ami expatrié en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est étrange, non ? On parle d'expatriés dans un sens et de migrants dans l'autre, preuve que les relations entre la France et le continent sont encore loin d'être égalitaires ou équitables. Donc il y a 2 ans, je débarque à Abidjan et là, c'est la claque. Je vous épargne le carnet de voyage, hein, mais je me rends compte que la présence française en Afrique de l'Ouest est partout. De la monnaie aux infrastructures du port, en passant par les taxis dans lesquels je monte, des vieux tacos des années 80. Au-delà de ça, j'avais aussi été frappée par le bouillonnement de vie dans les rues, l'ampleur de l'économie informelle et puis la place des femmes dans tous ces business.
Sans la visiter, l'Afrique, on peut peut-être la découvrir grâce aux médias.
Ben pas vraiment en fait, c'est quand même toujours pas mal de clichés, on en parle quand il y a des crises, exception faite à RFI peut-être qui consacre pas mal d'émissions à la vie quotidienne, l'entrepreneuriat ou les différentes cultures. On remarque quand même que les différents sommets Union européenne-Afrique et Afrique-France ont fait couler de l'encre. Normal, il serait temps de s'intéresser aux jeunesses africaines parce que selon les projections, en 2050, la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Ça en fait des jeunes actifs de demain et il faut donc radicalement changer les modèles de développement pour permettre à ces populations en grande demande d'avoir un meilleur avenir. Ah oui, et puis aussi, bien sûr, il y a quand même des papiers culture, notamment sur les rappeurs issus des diasporas africaines.
Et justement, on va en parler des diasporas.
Les communautés africaines sont très présentes en Europe, mais on ne les retrouve pas partout. Près de 90% des afro-descendants vivent dans seulement 12 des 27 pays de l'Union, avec en tête, évidemment, les anciennes nations colonisatrices. C'est compliqué de trouver des chiffres parce que plusieurs pays, y compris la France, interdisent les statistiques ethniques. Mais on estime qu'un à 2% de la population européenne est issue des diasporas africaines. Ça monterait à 8% de la population française. Ils sont donc nombreux, mais force est de constater qu'ils sont très peu représentés et c'est criant sur le plan politique. À chaque fois qu'une personne issue des diasporas se présente à un poste de représentant, on en entend sacrément parler, preuve d'un fait encore rarissime. Récemment, en Italie, les projets se sont tournés sur Ahmed Abdoulaye, un immigré somalien naturalisé il y a 7 ans qui s'est présenté pour les élections au conseil municipal de Turin.
Une autre façon de se familiariser avec l'Afrique, Alice, c'est peut-être aussi à travers la vie étudiante.
Oui, 43% des étudiants étrangers en France sont d'origine africaine. Ça représentait près de 43 000 étudiants en 2015. Mais leur mobilité a été plus compliquée par l'augmentation des frais de scolarité ces dernières années. Des étudiants européens en Afrique, par contre, c'est moins évident. Mais depuis l'ouverture du programme Erasmus+, en 2015, leur nombre a été multiplié par 12, passant de 46 en 2015 à 594 en 2020. Le but du programme, c'est évidemment d'intensifier ces échanges, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et ça contribuerait vraiment à élargir le panel des jeunes expatriés en Afrique, qui ne peuvent pas seulement être des militaires engagés sur le terrain, des volontaires qui font de l'humanitaire ou des entrepreneurs.
Merci Alice Roujat. Je rappelle qu'on retrouve votre chronique sur les réseaux sociaux avec notre partenaire Enter. Binta Sidibé Gascon, vous-même, vous faites partie de la diaspora. Comment vous réagissez à cette vision quand même assez pleine de clichés de la jeunesse européenne ?
Oui, il y a autant de clichés, mais autant de choses aussi qui sont vraies. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias et les réseaux sociaux, on a vraiment moyen d'aller chercher l'information. Et aussi, la jeunesse africaine est très présente sur les réseaux sociaux et elle se fait entendre sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un message qui remonte.
Pour vous, Habiba Issa Moussa, vous êtes étudiante, vous avez aussi l'impression que vous avez cette connexion grâce au réseau, que ça permet d'être... Et complètement en Afrique et complètement en Europe.
Mais exactement, parce que sans les réseaux sociaux, c'est sûr que je ne serais plus autant connectée avec mon continent. Et il faut dire que quand on vient en tant qu'étudiant ici, la vie continue chez nous. Il y a des évolutions qui se font, des programmes qui se créent. Et on est loin de tout ça et la vie continue chez nous. Et les réseaux sont vraiment le seul moyen d'avoir un lien avec notre pays, notre entourage.
Alors vous parlez de cette vie qui continue sur le continent. Oui. Il y a un dossier particulièrement brûlant et qui empêche la vie peut-être de continuer comme elle le voudrait. C'est le Sahel. Alice faisait référence aux militaires. La situation sécuritaire au Mali qui a des conséquences partout dans la région. Je vais continuer à vous écouter, Binta Sidi Bégassian. Comment ça se passe aujourd'hui pour les populations civiles qui se trouvent au Mali, qui se trouvent au Burkina, qui se trouvent au Niger ?
Dans cette lutte antiterrorisme au Sahel, c'est essentiellement, il faut le dire, c'est les civils qui ont payé un lourd tribut. Même si on commence à voir depuis quelque temps un léger changement, ça a quand même toujours été les civils. Et aussi, c'est une crise multidimensionnelle, que ça soit parce qu'on parle que de l'aspect sécuritaire, mais à côté de ça, il y a l'aspect humanitaire, économique, social. C'est vraiment plusieurs crises dans cette crise sahélienne qui provoque de nombreux déplacements, des milliers d'écoles fermées, une jeunesse complètement abandonnée. Et aussi ce risque permanent de menaces et d'attaques.
La crise, en plus, a pris un tour nouveau ces dernières semaines avec les mauvaises relations entre Paris et Bamako, hein, les accusations d'ingérence maintenant faites par le Mali à Paris, des accusations d'ingérence qui sont aussi répercutées, relayées par Alger. C'est une source d'inquiétude également. Est-ce que pour les gens qui sont sur place, ça va avoir des conséquences encore pires sur la situation au quotidien ?
Oui, je pense que la société civile a un rôle à jouer dans ce qui est en train de se passer, notamment au Mali avec l'arrivée des forces militaires privées. On se doit quand même de communiquer sur ces forces-là, sur ce qui s'est passé, leurs différentes actions qu'il y a eu en Centrafrique. Et aussi, on a vu, et on le répète tout le temps, le tout militaire ne fonctionne pas. N'a fonctionné ni en Afghanistan, ni autre part. Et là, malheureusement, au Sahel, toutes les propositions qu'on nous fait sont toujours militaires. Donc même là, l'arrivée des forces privées, c'est encore militaire. Mais c'est surtout de sensibiliser la population qui, aujourd'hui, il y a une grande propagande qui est là, qui présente, en fait, cette force militaire comme la solution. Elle va venir sauver les Maliens. Et qui nourrit aussi un sentiment anti-français. Donc je pense que nous, de la société civile, on se doit de sensibiliser les gens et de leur dire l'idée, c'est pas de laisser un tel pour prendre quelqu'un d'autre. C'est vraiment aller vers des solutions durables et non le militaire.
Quand vous dites sensibiliser des gens, c'est-à-dire sensibiliser le pouvoir, hein, ou sensibiliser les populations en leur disant c'est pas parce que la France va se retirer qu'il va y avoir peut-être des forces militaires privées. Alors là, on pense aux Russes, on pense à Wagner qui est en négociation aujourd'hui au Mali, qui est intervenu en République centrafricaine, pas très loin de chez vous, Jean-Jacques Lumumba. Ou bien est-ce que c'est de prévenir qui, finalement ?
Je pense que le pouvoir est au courant. On n'a rien à apprendre au pouvoir. Ils savent très bien dans quoi ils vont s'engager. Si les personnes qui devraient être sensibilisées, c'est vraiment la population qui est vraiment prise en otage. Parce que pour elles, aujourd'hui, ces mercenaires viendraient pour les sauver. Alors qu'à côté de ça, il y aura des exactions, comme ça s'est passé en Centrafrique, et ce n'est pas forcément la solution. Donc c'est plus la population sahélienne qu'il faut sensibiliser. Et en même temps, le pouvoir les utilise aussi pour brandir, en fait, faire monter ce sentiment anti-français en disant « Non, on veut les Russes. Dites que vous voulez plutôt les Russes que les Français. » Donc la population est vraiment prise elle est manipulée. Et ça, c'est le rôle de la société civile quand même. Si on nous le permet de le faire.
Quand on voit ce sentiment anti-français qui monte, Jean-Jacques Lumumba, et qu'on voit que Paris, par exemple, pousse à une force européenne au Sahel, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut justement calmer la situation, l'arrivée de la force Takuba? On sait qu'elle a du mal à se déployer, mais voilà, cette force européenne qui est en train de se mettre en place, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt un bon signe.
Moi, j'irai un peu plus loin par rapport à la force européenne et je vais rentrer un tout petit peu dans le vif du sujet. Vous savez, le problème sécuritaire au Mali et dans le Sahel, c'est lié entre autres à un problème de transparence et de corruption. Vous savez, malheureusement, les militaires qui se battent sur le front et l'aide française qui est arrivée au Mali, qui est évaluée à plusieurs milliards d'euros, cette aide n'arrive pas aux vrais bénéficiaires qui sont les soldats qui sont sur le terrain. Et malheureusement, la France a été tellement politique en fermant les yeux sur beaucoup d'abus et beaucoup de détournements des fonds. Et vous savez, quand il y a autant d'argent investi, c'est une aide pour pouvoir, c'est une aide sur des questions sécuritaires, de même que les aides de développement. Quand elle ferme les yeux sur la façon dont cet argent est géré, malheureusement, cela, à la fin, ne bénéficie pas à la population, ne bénéficie pas aux vrais bénéficiaires, en réalité, de l'argent, surtout pour le cas du Mali, qui devraient se battre et affronter les terroristes. Et malheureusement, vous avez des militaires au Mali qui sont désespérés. Moi, je viens du Sénégal. J'ai fait un constat macabre en discutant avec la société civile. C'est que la plupart des maisons sur les côtes du Sénégal appartiennent à des généraux et à des autorités maliennes. Ça, c'est très grave, vous savez, parce que ça montre que l'argent, même l'argent de l'aide au développement de la France dans beaucoup de pays en Afrique, est détourné. Et je crois qu'il est temps que la France mette aussi un accent sur la transparence, la redevabilité, surtout la traçabilité des fonds investis dans l'aide au développement. Et cela permettra après à ces gouvernants qui veulent exploiter des sentiments anti-français pour expliquer un certain nationalisme ou un échec qui est partagé, je peux le dire, pour pouvoir trouver des vraies solutions. C'est vrai qu'une force européenne aujourd'hui aidera à résoudre la situation, mais il faudrait plus de clarté et de transparence dans la gestion de l'aide qui va être mise en place.
Mais justement, on va en parler de l'aide au développement, parce que l'Europe est le premier donneur d'aide au monde. La France participe avec l'AFD à un certain nombre de projets qui permettent de réduire les inégalités, mais effectivement, la presse a dénoncé encore dernièrement le manque de transparence dans ces processus. Je vous propose d'abord qu'on écoute un reportage au Sénégal de notre correspondante Charlotte Drac. Elle va nous expliquer ce que fait la délégation de l'Union européenne qui finance des projets de développement. Il y a ce projet Consortium Jeunesse Sénégal qui rassemble plusieurs associations de jeunes. L'objectif, c'est d'informer et d'outiller à l'emploi et à l'entrepreneuriat 200 000 jeunes de la banlieue de Dakar d'ici 2023.
Depuis la terrasse du centre Yakar, qui signifie espoir en Wolof, l'océan est tout proche. Nous sommes à Guédiaouaï, en banlieue de Dakar.
On est à 35 minutes de Dakar, sur la côte nord, voilà, dans la banlieue de Guédiaouaï, qui réunit plusieurs quartiers. Donc ça représente une population jeune assez importante.
Anne-Laure Paille est responsable du campus du Centre de leadership et d'innovation lancé par le consortium Jeunesse Sénégal. La cible, les jeunes de 16 à 35 ans.
Donc vous voyez, le centre commence à prendre des couleurs. Les couleurs du consortium Jeunesse, jaune, vert et rouge, voilà, avec des mots forts là sur toute la montée d'escalier, éduquer, entretenir, éveiller, conseiller, des mots qu'on a choisis et qui sont pour nous parlants au niveau de la jeunesse et au niveau de notre projet.
Un espace médiathèque dédié aussi à l'information et l'orientation, une salle informatique ou encore un studio de production audiovisuelle. À l'extérieur, une scène et un espace restauration. Le lieu, qui devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année, se veut ouvert aux jeunes du quartier. Achille Gilda Servé Simoto Djikoun, 31 ans, volontaire et formateur.
Quand j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, bon, je ne savais pas quoi faire en quelque sorte, quoi, parce que j'avais eu des problèmes financiers. Donc avant, quand j'entrais ici, j'étais volontaire. Moi, j'habite ici à Guédiaouaï. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des diplômes, mais qui ne savent pas où s'orienter. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont très tôt abandonné les études. Donc ce centre leur permet de pouvoir saisir une autre opportunité. C'est un centre qui apporte de l'espoir.
Au Sénégal, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Une jeunesse particulièrement touchée par le chômage. Fatou Bandiour, responsable du projet Jeunesse Espoir.
Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi au Sénégal et notamment dans la banlieue. Et là, c'est les jeunes qui trouvent des solutions pour les jeunes, par les jeunes. Ensuite, dans ce projet-là, on a le jeune qui est placé comme principal moteur de changement pour que lui également, dans sa communauté, crée le changement. Donc, on a des formations techniques, que ce soit en restauration, en couture, en menuiserie, etc. Donc, on l'outille avec des compétences techniques. On l'outille également avec des compétences douces. C'est tout ce qui est parler en public, donc tout ce qui est communication, l'utilisation du numérique également. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, on donne accès, on fait travailler et on apprend.
Que les jeunes deviennent des relais, une démarche qui a convaincu la délégation de l'Union européenne à Dakar. Elle s'est engagée à hauteur de 2 millions d'euros sur 3 ans. Sobel Aziz Ngom, directeur exécutif du consortium Jeunesse Sénégal.
Nous nous sommes tournés vers plusieurs partenaires. L'Union européenne a été un partenaire pionnier avec lequel nous avons signé un accord de partenariat politique pour promouvoir en tout cas l'inclusion des jeunes dans les réflexions, dans les stratégies des projets qui les concernent. Nous considérons aujourd'hui que les partenaires qui sont là pour aider la nation et ses populations doivent être particulièrement à l'écoute de ce qu'elles ont à proposer pour leur propre devenir. Et donc nous avons eu des interlocuteurs ouverts à discuter avec nous, à entendre nos propositions. Donc ils nous ont donné un mandat de confiance parce qu'effectivement c'est peut-être la première fois qu'une association de jeunes locales lève plus de 2 millions d'euros pour faire une activité. Nous en sommes conscients, mais nous sommes également conscients de nos intelligences et de nos capacités à pouvoir réaliser des choses qui sont productives, qui sont adaptées à notre environnement et qui répondent aux besoins de nos jeunes.
Sobel Aziz Ngom participe au sommet de Montpellier ce vendredi. Il y a eu certaines fissures dans l'alliance entre l'Afrique et la France, dit-il. Il ne s'agit ni de dénoncer ni de revendiquer, selon lui, mais je cite, d'éviter la méprise pour éviter le mépris.
Alors, on l'entend dans ce projet de la délégation de l'Union européenne, hein, c'est l'aide au développement qui est plutôt porteuse d'espoir. Mais vous le disiez, Jean-Jacques Lumumba, il y a aussi des aspects de l'aide au développement qui sont plus problématiques, sur lesquels travaille l'Agence française de développement, l'AFD. Et est-ce que là, l'apport de l'Union européenne, ça permet plus de transparence? Est-ce que le regard européen sur de nombreux projets, c'est un facteur de transparence?
Pas forcément, parce que aujourd'hui, il y a aussi la façon dont cette aide est gérée sur le plan local. Je crois que la problématique aujourd'hui, c'est celle de savoir et de définir quand on investit dans un projet de l'Union européenne, c'est est-ce que ça bénéficie réellement à la population? Est-ce que la population sera cette réelle bénéficiaire de ce projet? Et derrière, est-ce que la population pourra demain continuer à faire avancer, à faire fructifier ce projet avec ou sans l'aide de l'Union européenne? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a beaucoup d'exemples d'aide. Hein. Moi, je peux prendre l'exemple dans mon pays avec un projet de reboisement.
La République démocratique du Congo.
De Colruyt, un projet qui vient d'être lancé tout récemment, qui permettra de remettre, de réinsérer professionnellement plus de 1000 jeunes dans la province du Congo. Donc, vous voyez, des projets comme ça qui bénéficient directement à la population sont plus porteurs que ceux qui viennent, par exemple, du gouvernement et à un moment donné dans des structures où la gestion est très opaque et la rédévabilité n'est pas garantie.
Est-ce que ces projets d'aide au développement aussi, ils vont vraiment aux populations, ou est-ce que ce sont finalement des entreprises françaises ou européennes qui en bénéficient, Habiba Issa-Moussa?
Alors, c'est l'une des grandes questions par rapport à l'aide au développement, qu'elle soit française ou européenne, mais surtout française. Parce que l'Agence française de développement a été souvent pointée du doigt pour favoriser les entreprises françaises, in fine, dans l'octroi de cette aide au développement. Et je pense, moi, pour ma part, que passer aussi à un niveau européen pourrait nous permettre de pallier ces critiques, qu'elles soient fondées ou non. Et au niveau de l'Europe, je pense qu'il y a quand même certaines garanties. C'est plusieurs pays réunis ensemble. Et je pense que s'il y a vraiment une favorisation des entreprises françaises, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être là.
Binta Sidibé, vous travaillez avec des organisations qui sont bénéficiaires de l'aide?
Oui, tout à fait. Donc là, un des points qui est difficile, c'est que, par exemple, quand il y a des offres, on va toujours demander qu'il y ait une ONG internationale qui soit avec l'ONG locale. Il faudrait vraiment que ça vienne de la population, que la population dise on a besoin de quoi, et ensuite les bailleurs aident. Alors qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est que les bailleurs ont... font semblant d'aider ou veulent aider, je ne sais pas, envoient des aides, mais qui ne sont pas forcément les besoins de la population. Donc moi, je pense qu'avant de parler, de dire que l'Union européenne ou que d'autres partenaires s'impliquent, je pense que le moment est vraiment venu de faire le bilan. Parce que quand on regarde nos pays, c'est quand même des pays qui sont les plus aidés, où il y a je prends par exemple le cas du Burkina Faso, où il y a plein d'ONG, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il y a vraiment quelque chose. Il faut faire un bilan avant de vouloir passer la main à l'Union européenne ou à quelqu'un d'autre. Et comme mon collègue l'a dit, la question de la corruption. C'est inadmissible de donner de l'argent pour un projet. On vient, on fait l'état des lieux, on trouve que le projet n'a pas été fait, mais on réinjecte encore de l'argent. Donc d'un côté, les bailleurs aussi participent à cette corruption. Donc est-ce que finalement, cette aide n'est pas voulue pour une certaine élite, comme il l'a dit, d'aller acheter des châteaux et autres à côté? Donc c'est vraiment, moi je pense, le moment est vraiment venu de faire le bilan avant de rajouter d'autres partenaires et autres.
Et est-ce que, comme le disait Habiba Issa Moussa, pouvoir en référer aux juridictions internationales, à la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple?
Ah oui, bien sûr, il faut qu'il y ait des poursuites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, du moment où on vérifie, on fait l'état des lieux, on se rend compte que le budget est parti sur le terrain, il n'y a aucun résultat, on ne peut pas continuer à injecter. Donc c'est une complicité, en fait. Donc il y a cette complicité-là aussi des bailleurs qu'il faut arrêter, parce qu'ils sont en train de financer tout simplement nos pays pour aller faire, comme mon collègue l'a dit, des châteaux ou des voyages ou envoyer leurs enfants à l'étranger. Donc il faut vraiment faire
plus
le point.
De contrôle.
Plus de
faire
contrôle.
Faire le point et plus faire de contrôle. Est-ce qu'il faut revoir même cette notion de développement? C'est ce que dit un peu Felwine Sarr, qui fait partie du comité MMB, qui dit, comme pour le Burkina, le Sénégal est en développement depuis 56 ans. Peut-être que juste cette notion de développement ne correspond à rien, finalement, ou à rien d'exact pour les pays africains.
Je pense qu'il faut dire une chose. L'Afrique n'est pas en crise de personnes ou d'hommes ou en crise de ressources humaines. Elle est en crise d'un système qui a été mal calqué, mal copié, et un système de prédation qui continue à faire des effets néfastes. Vous savez, cette notion de surfacturation et autres est connue. Madame Binta le dit si bien, l'AFD et les autres instances qui financent des projets en Afrique savent qu'il y a un ça ne va pas, mais c'est une forme de complicité tacite. Les gens se taisent et l'Afrique est surendettée, et en réalité, en dernier ressort, la population ne bénéficie pas de ces aides. Il y a lieu de se regarder en face et de dire stop à tout ce qui ne va pas. On ne va pas continuer à faire la même chose quand, après 56 ans ou 60 ans des indépendances, les choses ne marchent pas. Il faut se dire la vérité, changer de paradigme, ne pas seulement changer d'acteur, mais travailler pour changer de système. Et c'est ce qui va permettre à l'Afrique de réellement décoller.
Et c'est vrai que l'Agence française de développement ou les organisations internationales entendent une partie de ces critiques que vous formulez autour de cette table. Ils essaient petit à petit. Et pendant ce temps-là, on voit que les populations, elles, sont, à cause de ces systèmes de corruption, à cause de ces prédations, sont souvent obligés de partir, de migrer. Ça, c'est encore un des grands problèmes qui est au cœur de cette relation entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la façon dont l'Europe gère la question migratoire ? Habiba Issa Moussa, je vous vois sourire.
Oui, alors ça, c'est une grande question. Déjà, quand on parle de migration, il faut savoir dans quelle catégorie nous devons nous placer. Est-ce que nous parlons d'asile, de réfugiés ou de migration économique, même si j'aime pas ce terme? Et selon les catégories, l'Europe, de manière générale, sur toute cette catégorie, manque. La politique d'asile, d'immigration européenne manque réellement,
oui,
et quasiment inexistante. Il n'y a pas d'harmonisation en la matière.
Pour l'instant, personne n'arrive à se mettre d'accord, effectivement.
Exactement. On sait que c'est une compétence partagée entre l'Union et ses États membres. Et pour autant, chaque État fait un peu ce qu'il veut. Et selon un exemple simple, j'en discutais avec le directeur Normandie de Médecins du Monde. Quand on est, par exemple, réfugié afghan, on a plus de chances, environ 80, de se faire reconnaître le statut de réfugié en Angleterre, alors que dans un autre pays de l'Union européenne, il me semble, c'est un pays de l'Est, j'ai oublié le nom, donc je n'irai pas au hasard, mais 5%. Et on voit bien que c'est totalement ahurissant dans un espace qui est censé être harmonisé et intégré. Et cela est préjudiciable aussi pour les migrants eux-mêmes et pour leur parcours migratoire. C'est un gros problème de droits humains qu'il faut qu'on se pose, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau humain.
On a beaucoup raconté ce parcours hein, des migrants et la façon dont aujourd'hui l'Union européenne, d'une certaine manière, délègue la gestion de ses frontières extérieures à des pays qui ne font pas partie de l'Union, donc aux pays africains, aux pays du pourtour méditerranéen. Est-ce que c'est une solution qui, aujourd'hui, vous semble acceptable à vous, Binta Sidi Bey ?
Je pense que déjà pour ce sujet de migration, c'est vraiment le fantasme de la gauche, de la droite, et c'est très politique. Hein. C'est quand vous regardez aujourd'hui la jeunesse qui a envie de partir, c'est la destination, c'est pas la France, c'est plus le Canada, les États-Unis ou autres. Après, il y en a certains qui essayent quand même de venir, mais ce qui est malheureux dans ça, c'est que toutes les politiques sont mises pour protéger les frontières, pour pas que les gens rentrent, au lieu de plutôt faire des politiques directement, localement, pour retenir cette jeunesse sur place. Et là, il y va autant des dirigeants africains, c'est à eux vraiment de mettre en place une politique qui ferait de façon à ce que ces jeunes n'aient pas envie de partir.
Vous avez l'impression, Jean-Jacques Lumumba, que cette politique européenne de gestion des migrations, que ce soit de l'asile ou des migrations économiques, parce que c'est souvent de ça dont on parle, s'agissant du continent africain, c'est quelque chose qui peut continuer à fonctionner comme ça ?
Déjà, je dirais que la politique migratoire européenne ne fonctionne pas. Il y a de l'hypocrisie à tous les niveaux. Regardez ce qui se passe de fond entre l'Italie, l'Espagne et la France. Le président Macron a dû à un moment donné tonner parce qu'on rejette toute la responsabilité sur les pays les mieux nantis, l'Allemagne et la France, ce qui n'est pas correct. Je crois qu'il faut une prise en charge commune des responsabilités. Il y a des responsabilités au niveau des dirigeants africains qui ne donnent pas suffisamment d'espoir à leur population et les poussent en réalité soit à être des djihadistes dans la zone du Sahel, ou à prendre la voie de la migration, parce que la plupart des djihadistes qui exercent, par exemple, dans la zone du Sahel aujourd'hui, ne sont pas que maliens. Vous avez des Sénégalais, vous avez des Guinéens et des autres qui sont désespérés, parce qu'il faut leur donner de l'espoir. Et si on arrive à donner de l'espoir à ces gens-là, il y aura moins de djihadisme, il y aura moins d'immigration. Et il faut de la sincérité aussi. Pour des gens qui sont, par exemple, arrivés, savoir où les relocaliser, leur donner une autre chance, parce que ceux qui viennent, ils viennent généralement pour trouver une vie meilleure. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un. On est dans un siècle où on a compris que la solidarité internationale est très importante. On ne peut pas empêcher quelqu'un de chercher à survivre. Donc c'est aussi là l'enjeu. Et de l'autre côté, il faut une nette coopération des dirigeants africains, parce que quand l'asile ne marche pas et que les gens doivent retourner, travailler pour que les gens puissent réellement retourner et reformer cette politique d'immigration internationale, pour que de fois, quand les gens ne peuvent pas retourner dans leur pays, qu'ils aient peut-être un autre pays où ils pourront avoir la chance d'y aller. Parce que ceux qui sont à risque mettent aussi quelquefois à risque les pays européens. Et malheureusement, c'est la montée du populisme et c'est la montée des extrêmes, et surtout d'extrême droite, qui a un discours anti-immigration. Et cela pourrait à un certain niveau se comprendre, parce que tous les pays, en réalité, moi je ne cesse de le dire, sont très conservateurs. Si la même tendance était des Européens pour venir en Afrique, on aurait eu les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, il faut mettre une vraie politique dans ce sens-là, une politique globale, pour éviter à ce que les extrêmes ne puissent prendre de l'ampleur, parce que malheureusement, comme on le dit si bien, les extrêmes ne gouvernent pas. Et la montée du populisme est très dangereuse pour la cohabitation dans les pays européens et peut-être même pour l'avenir de la planète tout entière.
Habiba Issa Moussa, vous vouliez réagir ?
Oui, exactement. Pour finir, j'aimerais juste rajouter que le problème migratoire est un double problème, en fait. D'abord, du point de vue de nos pays, d'où sont originaires les migrants, il faut qu'on travaille sur le développement à la fois économique et social. Parce que si aujourd'hui des jeunes prennent la route, c'est parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Tant qu'ils ne mangeront pas à leur faim, qu'ils n'auront pas accès à l'éducation, à la santé, aux infrastructures de base, on aura toujours de la migration. Et d'autre part, au niveau de l'Union européenne, comme vous l'avez dit, l'Union européenne repousse ses frontières. Ce n'est pas une politique migratoire qu'on a actuellement, mais une politique sécuritaire de défense, j'ai envie même de dire. Quand l'Union européenne délègue au Niger, à la Turquie, ses frontières extérieures, ou même au Maroc, c'est tout simplement inadmissible, même autant au niveau de l'Union européenne que de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est des gros problèmes de droits humains et c'est inadmissible pour un continent avec une histoire de droits humains comme telle.
Est-ce que quand un pays comme le Niger ou comme le Maroc ou comme la Turquie que vous citiez justement conclut des accords avec l'Union européenne pour gérer les migrations, est-ce que du coup vous avez l'impression que ça permet aux représentants de la société civile de pouvoir s'exprimer normalement, de pouvoir avoir un rapport normal aussi avec... Je vais tourner ma question autrement. Est-ce que l'Union européenne, finalement, ne se muselle pas sur les questions de gouvernance, de droits de l'homme, quand elle confie la gestion de ses frontières extérieures à des pays tiers ?
Et enfin, l'actualité, on a plein d'exemples d'actualité, que ce soit au niveau de la Turquie où les migrants sont vus comme une marchandise diplomatique, un moyen de pression. Et cela oblige au même dans un certain sens, l'Europe à fermer les yeux sur certaines exactions de droits humains. C'est-à-dire qu'au Niger, on retient à Agadez des migrants, quelles que soient les conditions, de, même si ce n'est pas une détention, de retenue, on va dire. Tant que ces migrants n'arrivent pas en Europe, on ferme les yeux sur ça. Et ce n'est pas du tout normal. Et cela aussi, comme vous l'avez dit, porte atteinte au travail de la société civile, des sociétés civiles locales. Parce que d'une part, il y a une complaisance de l'Europe. Et d'autre part, les sociétés civiles qui se battent et qui sont censées avoir le soutien de la communauté internationale ne l'ont pas et elles se trouvent livrées à elles-mêmes.
Minta Sidibé.
Oui, donc je compléterais qu'en fait... Le fait de laisser la population à elle-même fait que l'aide devrait vraiment être bien orientée sur la population. Parce que là, toutes les aides qu'on amène ne sont pas destinées vraiment à eux. L'idée que je voudrais dire, c'est que vraiment, là, il y a une action des bailleurs qui est assez hypocrite. Parce que du moment où on lève des capitaux pour un pays, mais il y a des violations des droits humains, des exactions, des exécutions sommaires, à un moment donné, pour dire facile, il suffit juste de fermer les robinets et de rétablir l'état de droit avant de pouvoir continuer à aider. Mais continuer à aider un pays où les droits ne sont pas respectés, où il n'y a pas un état de droit, c'est être vraiment complice.
Tout à l'heure, vous évoquiez, Binta Sidibé, le fait que les jeunes Africains qui se rendent à l'étranger n'ont pas forcément envie d'aller en France ou en Europe, mais peut-être aussi au Canada, vers d'autres destinations. Ça soulève le problème des visas. On sait que la France a réduit le nombre de visas pour l'Algérie, pas sur les visas pour les étudiants, mais voilà, cette question des visas, elle reste toujours une question d'actualité. Est-ce que vous aimeriez que, dans une relation entre l'Europe et le continent, il y ait plus de visas, plus d'ouverture ? J'imagine que oui.
Là-dessus, je pense qu'il y a deux élus, la députée Sira Silla et le député Medjib Guerab, qui se sont saisis de la question, qui ont... fait un rapport dessus parce que plusieurs personnes en fait leur avaient fait remonter la question des difficultés des visas, le coût et il y a un rapport qui a été soumis à la commission de l'Assemblée nationale pour justement que les étudiants puissent plus facilement venir, alléger les procédures. Mais bon, je pense que ça a dû être juste théorique. Jusqu'à présent, ça n'a pas été mis en application.
Vous qui êtes encore étudiante,
oui. Alors là, je pense qu'on pourrait en parler pendant 2 heures. Tout simplement, une fois que l'étudiant africain et étrangers de manière générale arrivent en France, son périple n'est pas fini parce qu'il manque une harmonisation en France des titres de séjour. Par exemple, selon la ville dans laquelle vous vous trouvez, selon, on va dire, l'orientation politique ou tout simplement l'humeur de l'agent en face duquel vous vous retrouvez pour le renouvellement de votre titre de séjour, vous n'êtes pas servi de la même manière. À Toulouse, j'avais des titres de séjour pluriannuels. Aujourd'hui, par exemple, dans une autre ville où je suis, c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire ça se compte en termes de mois. Malgré le parcours scolaire, malgré les ressources, tous les documents disponibles qui justifient la régularité de notre séjour, c'est très compliqué et sur ce point, il faudrait avoir une harmonisation au sein de la France. Et pour en revenir, pour le point de départ, des visas octroyés à partir des pays africains, évidemment que les visas étudiants s'en manquent. Et on a une jeunesse qui veut apprendre, qui veut étudier, qui veut voyager, qui veut découvrir, mais qui reste bloquée pour parfois des questions qu'on ne comprend même pas.
Jean-Jacques Lumumba, je crois que c'est un des sujets qui vous tient à cœur, l'éducation et justement cette possibilité de pouvoir voyager plus facilement pour faire des études. C'est plus facile d'aller ailleurs en Europe qu'en France, par exemple?
C'est vrai que la France offre quand même beaucoup de bourses d'études ou beaucoup de possibilités d'études aux étudiants africains. Mais moi, j'aimerais aller un peu au-delà de ça sur des questions d'éducation. La France pourrait ouvrir des partenariats avec certaines universités africaines pour permettre à ces étudiants africains de mieux étudier sur le continent africain et d'avoir les mêmes conditions qu'ici. Parce que vous savez, ce n'est pas évident de pouvoir voyager et d'obtenir le visa, mais on peut faire les choses dans un autre sens. Et parce que vous savez, ce n'est pas qu'un problème de la Belgique où les étudiants rencontrent des problèmes. Il y a un de mes compatriotes, en la personne de M. Junior Massoudi, qui s'est vu stopper au niveau de l'immigration belge, parce qu'on a estimé par les policiers qu'ils n'avaient pas le niveau pour pouvoir être inscrits dans une université belge. Ça remet en question cette forme d'oppression des États européens qui, de fois, ne tiennent pas en compte ce que décident, par exemple, les universités. Je vais aller un peu plus loin. Tous les visas, par exemple, mes compatriotes congolais ont eu du mal à avoir le visa et beaucoup ne seront pas au sommet France-Afrique parce que les visas n'ont pas été donnés à temps. Vous voyez qu'à un moment donné, ça frise un tout petit peu de la mauvaise foi parce que le visa n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais je suis tout à fait d'accord que la France, ou comme tout État, a le droit de décider à qui elle accorde un visa ou pas. Ça reste une question de souveraineté nationale sur laquelle on ne discutera pas. Mais pour des personnes qui méritent de voyager, je crois que l'Europe doit s'ouvrir à l'Afrique, comme l'Afrique aussi a le droit de s'ouvrir à l'Europe, et ne pas mettre ce cliché-là comme quoi un Africain qui souhaiterait venir en Europe, ce serait forcément pour rester. Et ça permettrait de faciliter la circulation des gens, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de pouvoir s'offrir des vacances en Europe et de venir en Europe pour faire des recherches ou quoi que ce soit, et ça permettrait à avoir une situation beaucoup plus apaisée.
Cette question des migrations, du voyage, la littérature s'en est emparée, notamment à travers un livre qui est paru dernièrement de Ralil Diallo qui s'appelle L'Odyssée des oubliés. Je vous propose d'écouter l'entretien de Sébastien Gédor avec l'auteur.
Sembouyan fuit les exactions d'une bande de rebelles. Idi est orphelin, Maggie est une femme un peu trop libre, Alain un écrivain persécuté. Avec la galerie de personnages de cette Odyssée des oubliés, Ralil Diallo tord le cou aux idées reçues sur la migration. Il est en ligne de Dakar.
L'exil n'est pas un choix. L'exil s'impose à eux. Ils n'ont pas d'autre choix. À part l'exil, c'est la mort. Ils ne quittent pas leur terre de leur plein gré. On ne va pas en terre étrangère, on ne brave pas le Sahel, la mer, tous les risques, y compris les terroristes, juste pour pouvoir aller se promener à Paris. Donc ce texte est né d'une simple tentative de leur rendre leur dignité à tous ces migrants que j'appelle les oubliés, parce que beaucoup meurent dans le désert. Ils sont ensevelis par le Sahara quand ils ont de la chance. D'autres sont dévorés par des vautours. Il me fallait à mon tour essayer de leur offrir une sépulture convenable. C'est comme ça qu'est née l'Odyssée des oubliés.
Mali, Niger, Libye, l'Odyssée des oubliés traverse le désert à un train d'enfer. Pied au plancher, Samy le passeur a embarqué les candidats à l'exil dans son 4x4 à l'assaut des dunes. Une tempête de sable, des coupeurs de route, surtout ne jamais s'arrêter, et malheur à celui ou celle qui tombe de l'arrière du pick-up. Samy le passeur, un des personnages les plus marquants du livre de Ralil Diallo.
chaque auteur doit chérir ses personnages et les comprendre. Ce n'est pas une tentative de jugement ou un tribunal. Chaque personnage doit être un être humain à part entière, donc complexe. Et c'est le cas de Samy. Je dis quelque part qu'être passeur est un humanisme. Samy est justement l'exemple parfait de cela. Il convoie les moins nantis et les moins forts jusqu'aux rives de l'Occident. Et Samy est un personnage saisissant et charmant. C'est l'un de mes personnages préférés de ce roman, justement de par sa complexité.
L'Odyssée des oubliés s'est nourrie de rencontres avec des candidats à l'exil ou des expulsés et aussi de voyages dans le désert mauritanien. Mais quand il écrit ce livre, Khalil Diallo a également en tête les vers en latin du poète Virgile.
Virgile, en son temps, voulait faire une Odyssée pour son peuple. Et moi, j'avais l'envie et l'ambition de créer l'Énéide, en fait, de ces migrants, l'Énéide de l'Afrique. Et dans ce roman, mon ambition était de dire la vraie Afrique en dehors des clichés, de m'écarter le plus possible de ceux qui fantasment la gloire de l'Afrique et de ceux aussi qui imaginent l'Afrique comme étant un immense continent plongé dans les ténèbres et dans la brousse.
À l'écart de tous ces clichés sur l'Afrique, Khalil Diallo est bien l'un des écrivains les plus prometteurs du monde francophone.
Et c'était donc Sébastien Gédor avec ce livre de Khalil Diallo, L'Odyssée des oubliés, c'est aux éditions Emmanuel Collat. On a entendu les uns les autres vos inquiétudes sur les questions sécuritaires, vos critiques sur l'aide au développement et votre désir d'une plus grande ouverture de l'Europe, de l'Afrique pour des échanges, pour des voyages. Si demain cette relation France-Afrique est refondée selon le souhait du président Macron et qu'on est face à une relation Europe-Afrique, est-ce que vous avez un souhait à formuler ? Jean-Jacques Lumumba.
Mon seul souhait à formuler aujourd'hui reste l'éducation, parce que je m'apesantis sur cette problématique-là, parce que j'estime que c'est le seul moyen qui permettra réellement à ce continent de gagner en liberté et surtout de gagner en potentiel et de transformer ce potentiel qui vibre dans les Africains en richesse réelle. Parce qu'il n'y a pas meilleure richesse que les ressources humaines. Et donc, il faut travailler sur ça. Et s'il y a des vrais projets, des vraies déclarations qui sont faites dessus, je crois que ça sera un très bon début pour la suite de cette coopération que nous voulons gagnant-gagnant.
Binta Sidibé.
Déjà, sur ce nouveau format de sommet qui met vraiment en avant la société civile, c'est une bonne chose, parce que la société civile, quand on le regarde, surtout en Afrique, elle a toujours été oubliée. Il faudrait vraiment, comme ça a été fait là au sommet, pareil, qu'on le fasse la même chose dans nos pays. Parce que quand vous regardez, la population africaine n'est pas du tout écoutée, que ce soit les institutions régionales de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Ils ont beau voir les voyants rouges, les alertes de la population, on ne les écoutera pas. Ils laissent pourrir la situation jusqu'à ce qu'on est en train de voir ces derniers jours avec tous les différents coups d'État. Ça reflète vraiment que la société civile et la population n'ont pas son mot à dire. Et il faudrait qu'elle ait plus de paroles.
Aviva Issa Moussa.
Alors, je rejoins mes deux camarades. Comme l'a dit M. Jean-Jacques, exactement, miser sur l'éducation. L'éducation, et ce, à tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire, universitaire, et aussi l'éducation culturelle aussi, pour évoluer et pour avoir plus de d'avenir, exactement. Et aussi, comme l'a dit Madame Binta, miser également sur l'ouverture.
Merci à tous les trois. Carrefour de l'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Munier avec les moyens externes d'RFI à Montpellier pour ce sommet Afrique-France.
Géopolitique, le débat.